Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Merci de nous avoir choisis pour votre jeudi. Écoutez, hier, j'écoutais la conférence de presse de 17h et le premier ministre Legault à plusieurs reprises a mentionné que la raison pour laquelle il assouplissait les règlements concernant le sport, c'était pour des considérations de santé mentale. J'aurais juste une demande à faire, monsieur Legault. Pour la santé mentale des gens, pouvez-vous aussi assouplir les conditions des salles de spectacle? Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un lien entre la culture et la santé mentale? C'est tout ce que je vous demande. On comprend bien sûr sport et santé mentale, mais culture et santé mentale, ça aussi, ça va main dans la main. Quand je vous ai entendu dire ça hier, j'ai poussé un petit peu triste. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Alléluia, Inch'Allah, Mazel Tov. Hier à 17h, le gouvernement de la CAQ a annoncé qu'à partir du 8 mars, mais seulement en zone orange, on allait passer de 25 à 100 personnes qui pourraient être accueillies dans les lieux de culte. On va parler tout ça avec Mgr Pierre Murray, il est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, il est membre de cette fameuse table interreligieuse de concertation. Mgr Murray, bonjour.
Bonjour, Mme Durocher.
Votre réaction hier à 17h?
Ben, c'est une réaction de joie, évidemment. On va pouvoir enfin, dans les lieux de culte, accueillir un peu plus de personnes pour leur apporter un soutien puis un réconfort, alors qu'on traverse une crise, vous le savez, assez difficile depuis un bout de temps.
Oui. Le fait que ce soit uniquement en zone orange, est-ce que c'est une grande déception ou vous vous y attendiez?
On savait que ça viendrait par les zones oranges. Hein. On voit les choses se dérouler comme tout le monde. Notre préoccupation, toutefois, est de demander au gouvernement d'être cohérent et de demander la parité. Pour toute personne avec le moindrement de bon sens, là, d'accueillir 250 personnes dans une salle de cinéma et d'accueillir, que ce soit 25, 10 ou 100 personnes dans une église qui est parfois beaucoup plus grande qu'une salle de cinéma, c'est un petit peu difficile à comprendre. Alors, bien sûr, on se réjouit du 100 personnes. Ça va nous permettre, comme je vous le disais, d'apporter un soutien et un réconfort à ces personnes. Mais au plan de la cohérence, je pense que le gouvernement a encore un petit peu de chemin à faire.
D'accord. Je l'ai dit, dès le départ, vous faites partie donc de cette fameuse table interreligieuse de concertation. Comment se fait-il que le gouvernement arrive avec cette mesure-là? Est-ce que vous avez pu, vous, au cours des dernières semaines, faire des représentations? Est-ce que vous avez un interlocuteur au gouvernement qui écoute vos doléances?
Oui, bien sûr. Le gouvernement, après bien des mois et des péripéties, a désigné un premier interlocuteur qui est entré en scène l'été dernier. Puis, cette personne-là a été mutée et tout de suite, on a eu une autre personne interlocutrice. C'est une secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif. Donc, on peut faire des représentations auprès de cette personne. On peut aussi, on ne se gêne pas de le faire, écrire au premier ministre et au docteur Arruda pour faire valoir nos points de vue. Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à faire ça, d'ailleurs.
Oui.
Et on essaie d'aider le gouvernement à prendre des bonnes décisions, pas pour mettre la population en danger, mais encore une fois, je pense que l'ensemble des Québécoises et des Québécois ont un moindrement de jugeote et sont capables de voir qu'il y a de l'incohérence dans les mesures qui ne se justifient pas. Alors, on se réjouit de l'ouverture, bien sûr, mais le défi de la cohérence demeure encore présent.
Parce que le parallèle que vous faites avec le cinéma est intéressant, parce qu'on le sait, ben en tout cas pour ce qui est des églises en général, c'est des endroits qui sont assez vastes, donc vous pourriez très facilement accueillir plus que 100 personnes en respectant le 2 mètres, en respectant toutes les mesures. Mais je pense par exemple aux synagogues, des lieux de culte qui sont peut-être plus restreints. Est-ce que dans ces cas-là, on pourrait vraiment aller jusqu'à plus de 100 personnes? Est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là plus un danger, un défi d'espace?
Bon, il faut savoir que le nombre maximal est toujours assujetti à la capacité de respecter la distance physique. Alors,
d'accord.
Même si dans un lieu de culte, officiellement, la limite est de 100, si une fois que j'ai assis tout le monde et que pour respecter le 2 mètres, j'arrive à 35, ben c'est 35. C'est pas 100. Et c'est pour ça qu'on dit au gouvernement, allez-y par un pourcentage du nombre
voilà.
de places.
Voilà.
Comme c'est le cas en Ontario, où c'est un petit peu différent que pour nous, les classifications de zones, là, mais ils ont deux zones qui ressemblent à notre zone rouge, puis ensuite, toutes les quatre zones ressemblent à nos autres zones à nous, l'orange et en descendant. Et dès qu'on sort de la zone rouge, c'est à 30 %. Et sans aucune autre condition, sinon que de port du masque, laver les mains, puis 2 mètres. Point. Alors, on dit au gouvernement, si c'est bon pour l'Ontario, puis c'est bon pour beaucoup de lieux dans le monde, ben, il me semble que ça pourrait être bon pour le Québec aussi. Puis ça réglerait toutes les discussions sur combien de gens, pas combien de gens. Prenez simplement la limite de 250 dans les cinémas. Vous savez comme moi, Mme Durocher, que la plupart des salles aujourd'hui ne contiennent même pas 250 personnes. Parce que le marché, c'est le multiplex. Ils veulent offrir davantage de cinéma ou de films au même endroit. Donc, les salles sont un peu plus petites.
C'est vrai.
Et pourtant, ils arrivent avec 250 personnes, puis je suis sûr que plus de la moitié des salles ne contiennent même pas 250 au Québec.
Mm-hmm. C'est un très bon point.
Je dirais que la cohérence va aussi avec les salles de spectacle. C'est être assis dans un cinéma, être assis dans une salle de spectacle ou être assis dans un lieu de culte, franchement, quelle est la différence? C'est sûr qu'il y a des fonctionnaires à la santé publique qui nous arrivent avec une liste de différences, mais quand même, là, je vous avoue que quand je lis ça, c'est tiré par les cheveux, là.
Ah oui, vous trouvez que c'est tiré par les cheveux?
Ben oui, de dire que, par exemple, dans une célébration, dans un lieu de culte, par exemple pour les catholiques, il va y avoir un déplacement pour que les gens aillent chercher la communion.
Ouais.
Ah ben vous voyez, c'est pas comme dans un cinéma, parce que dans un cinéma, les gens se déplacent pas. Ben là, excusez-moi, mais c'est quoi la différence entre se déplacer dans un lieu de culte où le déplacement est organisé, il est balisé, et se déplacer, je sais pas moi, au Costco. Je sais pas si vous êtes allé dans un Costco dernièrement, mais écoutez, y a du monde au Pouce-Corée, là.
Ça oui, va dans ça se déplace.
Oui,
ben oui, puis ça respecte pas le 2 mètres.
Ben voilà. Alors pourquoi tout d'un coup un déplacement dans une église devient archi dangereux alors qu'on semble très bien vivre avec des déplacements dans des centres d'achat, des Costco, des épiceries, puis ça n'a pas l'air plus dangereux que ça, là.
Oui. Pourquoi on peut communier à l'hôtel du Costco? du poulet de grain, mais qu'on peut pas communier à aller chercher une hostie dans une église catholique. J'avoue que la comparaison est intéressante, mais moi, très honnêtement, vous m'apprenez quelque chose, Monseigneur Murray, je pensais que dans les lieux de culte catholique, qu'on avait mis une croix, excusez-moi le jeu de mots, qu'on avait mis une croix sur la communion. Donc, dans les lieux de culte, en ce moment, on continue à faire la communion? Je pensais qu'on aurait simplement dit, bon, on fait plus la communion pour le temps de la pandémie, puis on reprendra quand la pandémie sera terminée.
Non, ben écoutez, partout dans le monde, hein, puis l'Église catholique, elle est présente partout dans le monde, il n'y a aucun gouvernement qui a interdit la communion. Aucun. Et si c'était dangereux, au nombre de communions qui se distribuent chaque jour dans le monde, on le saurait.
Oui, mais en même temps, on peut pas faire le 2 mètres quand on fait la communion, Monseigneur Murray. C'est juste une question, là, comment on procède? L'hostie est dans un... est tenue à bout de bras. Je ne sais pas comment on fait pour faire la communion. Elle n'est pas directement dans la bouche à ce moment-là, dans les mains. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
Voilà. Alors, évidemment, on interdit la distribution sur la bouche.
D'accord.
Et on a tout un protocole avec lequel on s'est entendu avec la santé publique, là.
D'accord.
Hein, qui fait en sorte que la personne, d'abord le ministre, si on prend du début, là, on a manipulé la préparation, là, dans la préparation, on a manipulé les hosties qui vont être consacrées avec le plus grand soin. Et lorsque c'est sur l'autel, le contenant dans lequel sont contenues les hosties qui vont être consacrées est recouvert pour que lorsque le prêtre parle, les projections des gouttelettes n'aillent pas dessus. Alors, ça, c'est sécurisé. Quand vient le temps de la communion, alors, je communie, je prends la petite gorgée de vin, je prends le scie, et lorsque j'ai terminé, je mets un masque, je me désinfecte les mains, et à ce moment-là, je prends la coupe dans laquelle sont contenues les hosties et je m'approche. Dans la nef, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont à ce moment-là suivre des indications sur le plancher. Toutes les allées sont à sens unique. Les gens restent à 2 mètres les uns des autres. Ils sont masqués. Et lorsque les gens arrivent devant moi, ils étendent au maximum les bras. Et c'est souvent une table, une petite table qui fait que ça impose une distance.
D'accord.
Et ça fait en sorte que on a la possibilité de rester à une grande distance. Donc, tout ce contact-là dure 3 secondes, même pas, et ça se fait en silence. Il n'y a pas d'échange de paroles.
Oui, parce qu'il ne faut pas postionner.
Lorsque la personne retourne à son banc, elle fait une petite pause, elle soulève son masque, consomme l'Eucharistie, remet le masque et s'en retourne.
Donc, on comprend que ça a été bien balisé, oui.
Oui, puis il faut pas oublier qu'un contact, selon la définition de la santé publique, c'est être à moins de 2 mètres, sans aucune protection, pendant 15 minutes.
Donc, ce qui n'est pas le cas.
Non, dans ce qui se passe dans n'importe quel lieu de culte, on n'a rien qui ressemble à la définition d'un tel contact.
Donc, d'où le fait que vous ne comprenez pas, justement, la réticence de... Excusez-moi, je suis désolée, j'avais un petit chat dans la gorge. Donc, d'où le fait que vous ne comprenez pas les réticences de la santé publique à étendre le nombre ou enfin à faire des mesures qui seraient semblables, par exemple, au cinéma. En même temps, des esprits un peu sarcastiques ou cyniques, Mgr Murray, vous diraient, est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui continuent à fréquenter les églises catholiques au Québec que vous ayez vraiment besoin de passer d'une limite de 100 personnes à une limite de 250 personnes? Est-ce que si demain matin le gouvernement disait, bon d'accord, vous avez le droit à 250 personnes dans les églises, est-ce qu'il y aurait 250 personnes qui se présenteraient?
Dans plusieurs églises, oui. Selon Statistique Canada, parce que la question que vous posez est intéressante, notre perception est qu'il n'y a plus personne qui va à la messe.
Oui.
Les derniers chiffres que Statistique Canada nous dit, pour le Québec uniquement, et ces chiffres-là datent de 2015 ou 2016, c'est que chaque semaine, on va le dire autrement, 650 000 personnes disent fréquenter un lieu de culte une fois par semaine. Il y a 650 000 personnes qui disent fréquenter le lieu de culte une fois par mois. Alors, si on divise le 650 000 par 4, hein, puis qu'on l'ajoute aux 650 000 qui y vont une fois par semaine, ça fait à peu près 800 000 personnes qui fréquentent chaque semaine un lieu de culte au Québec. Et en plus de ça, il y a 2 millions de personnes au Québec qui disent fréquenter un lieu de culte au moins une fois par année.
Oui, ils vont à la messe de minuit peut-être à Noël ou...
Des funérailles, un mariage, je ne sais trop, ou c'est l'anniversaire du décès de grand-maman, ou bon, peu importe leur motivation, mais ce sont des gens qui sont libres. Et vous voyez, c'est pas des grenailles. Est-ce qu'il y a 650 000 personnes qui vont dans une salle de cinéma chaque semaine?
Faudrait vérifier les chiffres. Mais je comprends tout à fait votre...
C'est pas marginal.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé, bon, par exemple, pour... quand on parle de sport, la pression pour redonner le sport, réouvrir le sport, on utilise l'argument de la santé mentale. Est-ce que c'est un argument que vous utilisez pour justifier l'augmentation du nombre de personnes acceptées dans un lieu de culte, cet aspect-là de la santé mentale?
Bien sûr, on le répète depuis le mois de juin de l'an passé, même avant, c'est que pour toutes ces personnes qui fréquentent un lieu de culte tout à fait librement, ben, s'ils y vont, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose. Hein? Sinon, ils resteraient chez eux. Alors, la santé mentale passe aussi par une santé, je dirais, spirituelle.
Oui.
Et la fréquentation d'un lieu de culte pour ces centaines de milliers de personnes leur apporte du réconfort, leur apporte du sens, du soutien, leur apporte une résilience.
Exactement. Mais en même temps,
nous avons besoin.
Mm-hmm. En même temps, il y a beaucoup, évidemment, de lieux de culte qui sont passés au numérique, au virtuel, et il y a beaucoup de gens qui suivent la messe du dimanche par le biais d'Internet, de Zoom ou toutes sortes d'autres plateformes. Est-ce que ça peut pas compenser, justement, pour cette absence physique?
Écoutez, ça fait un travail, effectivement, mais vous savez, dans ma famille, on est plusieurs enfants et on a le bonheur encore d'avoir notre mère qui a 90 ans, qui est tout à fait autonome dans son logement.
Mm-hmm.
Et de temps en temps, le samedi, on se fait un apéro par Zoom.
D'accord.
Ah, bien sûr, c'est un bonheur et une joie de se voir, on s'écoute, on se partage des nouvelles, on rit, on lève notre verre, et c'est bien agréable. Mais vous conviendrez avec moi que c'est pas comme si nous étions tous dans la même pièce avec notre mère.
Oui, mais en même temps, on est en période de pandémie, donc tout le monde comprend qu'on doit tous faire des sacrifices.
Voilà, sauf qu'à ce moment-là, on n'est plus uniquement dans la fermeture partout. Hein. Quand tout était fermé, les lieux cultes ont accepté de fermer aussi. Alors, quand il y a une mesure qui est imposée à l'ensemble de la population, les lieux cultes sont les premiers à lever la main et à dire « on ferme notre part ». Mais à partir du moment où le gouvernement commence à accorder des assouplissements, ben, il peut pas le faire comme un monarque qui est au-dessus de tout bon sens et de toute loi ou de toute cohérence et dire, ben là, je donne à ceci puis je donne pas à cela. Mm-hmm. Il y a un devoir de cohérence, il y a un devoir de respecter hein, le droit fondamental de la liberté de culte qui est inscrit dans toutes les chartes fondamentales de droit et de liberté. Alors, c'est ça, on ne demande pas de privilèges, on demande d'être traité comme les autres.
Oui. Vous entrevoyez quand une réouverture, disons, plus grande des lieux de culte dans les zones rouges? Est-ce que vous voyez un horizon à court terme ou vous êtes un peu découragé par la situation?
Ben, je ne suis pas vraiment découragé, mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question de l'horizon, c'est plutôt à la santé publique et au gouvernement. Ce sont eux qui prennent les décisions et ils n'ont pas l'habitude de télégraphier leurs intentions bien longtemps d'avance.
Oui. Alors je retiens...
On n'a pas d'indication. Ouais.
Aucune indication, même si vous êtes pourtant en contact avec cette secrétaire générale associée, donc au conseil exécutif. Monseigneur Murray, merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Et je retiens, j'aime bien votre comparaison avec le Costco et la communion la communion au Costco. J'avoue que l'image frappe fort. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Murray, donc qui est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et membre de la table interreligieuse de concertation. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
On se souvient tous tous de ce fameux vendredi 13, le vendredi 13 mars 2020. C'est cette journée-là que le premier ministre François Legault avait demandé au Québec de se mettre sur pause. Donc, ça va faire bientôt un an qu'on va, entre guillemets, fêter ça. On va en tout cas le souligner. Et mon collègue et ami Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, avait envie de réfléchir avec nous sur cette année qui vient de s'écouler. Et surtout sur le bilan du gouvernement Legault. Joseph, bonjour.
Bonjour Sophie.
Te souviens-tu, toi, comment tu te sentais dans tes petits souliers le vendredi 13 2020?
Dieu, oui, vendredi 13. En fait, si je me rappelle bien, vendredi 13, c'est la fermeture d'abord des écoles et des garderies. Après ça, je crois, c'est la semaine suivante que Justin Trudeau annonce la fermeture des frontières. Et puis après ça, c'est là qu'est arrivée l'expression « mettre le Québec sur pause hein. ».
Tu fais bien de me reprendre, oui.
les salons de coiffure, les restos et tout ça. Mon Dieu, écoute, à l'époque, je trouvais que c'était la bonne chose à faire et je continue aussi à penser que c'est la bonne chose à faire. Et je dois te dire que autant je comprends l'exaspération de beaucoup de gens qui n'en peuvent plus, autant je te dirais que moi, je me découvre, je me rends compte finalement que je m'y suis un peu habitué. Oui, et en fait, tu sais quoi? Je n'attends même plus de bonnes nouvelles. J'ai pris le pli, je n'ai plus aucune espèce d'attente, je laisse les choses suivre leur cours en quelque sorte. Mais, je vais te faire un aveu. Aujourd'hui, je vais fêter ce premier anniversaire. J'ai un scoop pour toi. Tu sais quoi? Oui, cet après-midi, pour la première fois, je m'en vais au cinéma. Oui, et je suis excité comme un curé au bordel. Hein? Ça fait un an.
Oui. Parce que je viens de faire une entrevue avec Monseigneur Murray de l'Assemblée des archevêques. Je pense pas qu'il te trouverait très drôle, mais vas-y, oui comme
non,
un
ben curé j'entends d'ici arriver les protestations de l'archevêché. Quoi qu'il en soit, je suis excité comme une mine noce. Alors oui, tu vois, c'est ma première sortie cet après-midi au cinéma. Mon fils, il a été l'autre jour, il m'a dit « faut pas que tu manques ce film ». Et ma première question fut « il y a combien de monde dans la salle ?» Et là, il m'a répondu « on était 10, il n'y a pas de danger, papa, vas-y ». Alors, j'y vais cet après-midi.
Donc, mais tu ne nous as pas dit quel film tu allais voir La déesse?
Oui. Non, je m'en vais, bon, je devrais peut-être pas dire ça, enfin oui, je m'en vais voir un film danois qui s'appelle « Another Round ». Avec Mads Mikkelsen, c'est l'histoire d'une série de profs qui décident de mettre un petit peu de piment dans leur vie. Et pour le reste, ben, mon garçon m'a dit, je te raconte pas la suite, va le voir toi-même, ça vaut la peine. Alors, bon, tu vois, c'est ma première sortie.
Des profs en goguette, ça a tout pour te séduire. Écoute, quand tu dis comme un curé au bordel, ça me fait penser à l'excitation que moi j'ai ressentie quand j'ai remis les pieds au musée pour la première fois. Donc, quand les musées ont réouvert leurs portes et que je suis allée voir l'exposition Riopelle au musée des Beaux-Arts. Écoute, je te jure, je montais le grand escalier, puis quand tu montes le grand escalier dans la partie ancienne du musée, tu arrives et il y a un immense Riopelle qui t'accueille avant même que tu rentres dans l'exposition. Écoute, Richard et moi, on avait des larmes aux yeux. C'est vraiment... C'est ce contact-là avec la beauté, avec de faire éclater les petites cellules grises entre nos deux oreilles, ça fait du bien à l'âme, vraiment. Écoute,
c'est drôle que tu dis ça parce que... Juste avant de prendre mon billet pour le cinéma, j'étais sur le site du Musée des Beaux-Arts et là j'ai vu que c'était complet parce qu'évidemment le nombre de gens est limité et je me suis dit je me reprendrai.
Mais
tout ça pour dire que je sors peu à peu de ma coquille parce que moi évidemment j'ai pris ça très au sérieux le confinement et là c'est pas l'enfermement tellement qui me fait souffrir, comme effectivement l'absence de contact avec, ben, avec la beauté, avec l'art, avec je regarde mes vieux films en boucle, c'est bon.
Oui, je vais te présenter, un site extraordinaire, ça s'appelle Netflix, et tu peux voir plein de films. Il y a Mubi, il y a toutes sortes de, il y a Criterion, que tu demanderas à Richard de te faire des conseils. Écoute Joseph.
Sophie, l'autre jour, je me commande des films sur DVD, et là, évidemment, je vois que ce sont des DVD européens non compatibles avec le lecteur que j'ai, donc je me commande sur Amazon un lecteur multizone pour pouvoir écouter des DVD étrangers. Alors, tu vois, comme tout le monde, je fais contre mauvaise fortune bon cœur, puis je me suis réaménagé une espèce de petit cocon aussi agréable que possible. Bref.
Bon, alors tu demanderas à Richard, c'est un excellent pusher de films de partout à travers le monde. Il a une vaste vidéothèque. Alors tu lui demanderas de t'en fournir quelques-uns. Écoute, Joseph, quand on regarde cette année qui vient de s'écouler, puis en fin de semaine, François Legault a donné différentes entrevues où il se pète un peu les bretelles en disant « Ben non, il n'y a rien que j'aurais fait de différent. » Puis hier, en conférence de presse, il y a un journaliste de choix à Québec qui lui a dit « Ben, est-ce que c'est pas un peu prématuré pour vous péter les bretelles? » En même temps, quand on regarde le taux d'approbation du gouvernement, certains seraient envieux d'avoir un tel taux de confiance.
Oui. Écoute, c'est sûr que le bilan est mitigé. C'est sûr qu'il y a eu énormément de coches mal taillées, certaines proprement tragiques. Il est vrai que si on fait la liste des incohérences, on en a jusqu'à demain matin. Mais en même temps, comment expliquer cette étonnante popularité qui persiste? Écoute, j'ai l'impression que les Québécois voient que M. Legault fait de son mieux. Ils voient qu'il est à tout le moins de bonne foi.
Oui.
Et je trouve aussi que ce côté père de famille, humble, je me prends pas pour un autre, je suis entouré d'une équipe, je ne la joue pas solo comme Justin Trudeau. Tout ça, je crois, joue en sa faveur. Je crois aussi que, finalement, paradoxalement, il tire profit du fait que ça fait 20 ans, 30 ans, qu'on cesse de dire que le système de santé va mal et est complètement délabré. Bon, il y aurait des nuances à faire, mais fondamentalement, je crois que les Québécois ont intériorisé cette idée que M. Legault hérite d'un système de santé qui était déjà porteur de problèmes bien avant lui. Par ailleurs aussi, les gens voient que les frontières, ça relève d'Ottawa, la livraison des vaccins, ça relève d'Ottawa. Donc finalement, les gens sont capables de faire un peu la part des choses. Et puis, écoute, au Québec, comme partout ailleurs, il y a une espèce de réflexe normal, on se rallie toujours autour de celui qui tient le fort. Et en plus, évidemment, médiatiquement, tu as remarqué, les partis d'opposition disparaissent, n'est-ce pas? Ouais. M. Saint-Pierre Plamondon, Mme Anglade font leur petit tour de piste de temps en temps, mais le gouvernement prend toute la place. Et n'importe qui critique est un peu vu comme un chialeux qui fait pipi dans la soupe. Donc tout ça, forcément...
Décidément, le curé forcément au bordel puis le pipi dans la soupe, t'es dans les expressions colorées. Je sais pas ce que t'as mis dans ton café ce matin.
J'ai comme l'impression que le public a un petit peu besoin d'authenticité.
Oui.
On a le sentiment qu'on peut plus rien dire, là. Je m'assume, tu vois.
Mais il y a quelque chose de très particulier qui s'est produit hier, et François Legault fait ça de temps en temps. Normalement, les conférences de presse du gouvernement, parce que elles sont évidemment sur tous les réseaux. On accepte cette messe de 17 heures ou ces messes de 13 heures parce que l'heure est grave, parce que c'est la pandémie, puis parce que le gouvernement doit nous parler à tous des mesures à prendre en termes de pandémie. Mais hier, François Legault, il a commencé sa conférence de presse en parlant des féminicides, en parlant aux gars, en leur disant « ben là, c'est barbare, puis il faut qu'on se parle et tout ça ». Puis, Il y a une partie de moi qui se disait, bon, ben c'est bien qu'ils fassent ça parce qu'en effet, l'heure est grave. Puis il y a une autre partie de moi qui se disait, ben c'est un petit peu de l'électoralisme, c'est-à-dire qu'on vous accorde notre temps, on vous accorde notre antenne, Monsieur Legault, parce que vous devez nous parler de pandémie, que vous nous parliez de d'autres sujets, je trouve ça un peu hors sujet. Je ne sais pas où tu te situes là-dessus, Joseph. Est-ce qu'il a bien fait de parler de ça? Ouais. Ou est-ce qu'il profite du fait qu'il a un auditoire captif pour paraître pour le bon gars qui parle comme le vrai monde?
Je te dirais les deux. D'abord, tu soulèves un bon point. J'ai l'impression que les peuples ont besoin de certitudes, ont besoin de rites, ont besoin de cérémonies, ont besoin de symboles. Et d'une certaine façon, ces conférences de presse quotidiennes du Premier ministre sont devenues une espèce de point de rassemblement national, comme pouvait jadis l'être la messe ou le hockey du samedi soir. Là. Mm-hmm. Tout le monde va chercher une sorte de réconfort moral dans cette situation où le chef du gouvernement nous parle. Par ailleurs, on est en politique, n'est-ce pas? Et M. Legault, rappelle-toi, nous avait dit « Je serai le premier ministre de l'Éducation, jugez-moi là-dessus ». Et évidemment, aujourd'hui, et je ne lui en fais pas reproche, tout le monde constate que sa réélection ou pas va se jouer fondamentalement sur le jugement que l'on va porter sur la pandémie. Mmh. En même temps, lui sent bien qu'il y a une lassitude, il y a une exaspération. Donc, il profite évidemment des tribunes pour dire « Hey, oh, by the way, je n'oublie pas qu'il y a aussi d'autres sujets. Veuillez comprendre que je ne peux pas y consacrer autant de temps que je voudrais, mais ne craignez rien. Je ne suis pas un monomaniaque obsédé uniquement par la pandémie. Je sais qu'il y a d'autres sujets. » Donc, évidemment, en bon politicien, il profite du fait qu'il a toute notre attention, puis que des adversaires sont réduits au silence.
Ouais, mais je veux surtout pas que les gens pensent que je trouve que c'est pas pertinent de parler, évidemment, de violence conjugale ou que c'est pas pertinent de parler de ça. Je veux juste questionner, est-ce que cette conférence de presse où tout le Québec est arrivé à son écran pour savoir ce qui advenait des zones rouges et des zones oranges, est-ce que c'était pertinent de profiter de cette tribune-là pour en parler? Je fais juste émettre un petit bémol.
Oui, mais n'oublie pas, Sophie, on est quand même dans une période où le Parlement ne siège pas comme il devrait normalement siéger. Il n'y a pas de période de questions. On a une espèce de parlementarisme zoom un peu bizarre, y compris à Ottawa. Donc, évidemment, les politiciens choisissent, ou si tu veux, profitent des occasions qui leur sont offertes. Tu sais, je veux dire, on n'enlèvera pas la politique de ce qu'on vit en ce moment.
C'est sûr.
Ça reste une mise en scène, ça reste une compétition pour le pouvoir où chacun finalement place ses pions. Puis tu vois d'ailleurs l'embarras des partis d'opposition qui, en même temps, ont beaucoup de matière à critiquer, mais en même temps savent que s'ils critiquent trop, ça pourrait aussi se retourner contre eux. Donc, finalement, chacun fait ses petits calculs politiques et ça inclut François Legault.
Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Écoute, je m'en voudrais de ne pas parler de ta chronique de ce matin que j'ai adorée. Et tu nous parles, parce que j'aime bien quand tu fais des néologismes comme ça, quand tu inventes des mots, quand tu crées des nouveaux mots. Alors, on est bien sûr habitués, puis il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus, la tyrannie de la minorité. Mais aujourd'hui, tu nous présentes un nouveau concept qui est le concept de micro-minorité. Explication, s'il vous plaît.
Ben écoute, micro-minorité, n'est-ce pas? C'est tout simplement que combien de gens au Québec militent activement pour que dans les actes de naissance et de décès, on raie les mots père, mère, homme, femme? Combien de gens font une croisade pour les toilettes non genrées? Probablement 0,01%. Or, dans bien des cas, ces gens finissent par obtenir gain de cause. Or, nous avons tous été élevés dans cette idée que la démocratie, c'est le règne de la volonté majoritaire ou que l'union fait la force. Et donc, évidemment, on peut se poser la question, comment ça se fait que, des fois, sont prises des décisions qui apparaissent aberrantes à 99,9% de la population? Et il y a là, je crois, quelque chose qui, en sciences politiques, dans les sciences sociales, a été tout à fait documenté. Il y a évidemment la tyrannie des minorités. Hein. Ça, c'est le titre même d'un livre de Thomas Schelling. Mais ce que j'appelle le théorème du passager clandestin, c'est une traduction française maladroite de quelque chose qui s'appelle le free rider. Ça aussi, c'est un livre classique des sciences politiques dans les années 60, où l'auteur, Manker Olson, expliquait que les majorités, même si elles ont le sentiment populaire pour elles, sont handicapées par le fait que, au fond, qu'est-ce que ça change à ta vie qu'on enlève les pictogrammes sur les toilettes? Donc, on se dit, ben voyons donc, c'est fou raide, et on continue à faire notre petite vie quotidienne, alors que le militant, lui, est prêt à investir un nombre incalculable d'heures, et finalement, les élus disent, hey, es-tu fatigant? Et finalement, ces gens, à force de picosser, obtiennent gain de cause parce que toi et moi, on trouve ça fou raide, mais on a des enfants.
Mais on fait rien.
On a des jobs à faire. Et donc, on se regarde, puis on se dit, ben, si toi, tu veux la signer, la pétition, là, go, ma grande, je vais t'appuyer, mais compte pas sur moi pour m'embarquer là-dedans. Et donc, la majorité, finalement, elle est apathique. Et ça permet souvent à des minorités agissantes, déterminées, énergiques, bien organisées, mais finalement, d'aller à l'encontre du sentiment majoritaire et d'obtenir gain de cause. C'est un phénomène bien documenté, ça, dans les sciences sociales, du temps où les sciences sociales étaient sérieuses, avant le wokisme.
Oui, et je lisais ta chronique ce matin, cher Joseph, et je me disais, il y a juste un élément que je rajouterais à ton argumentaire, qui est évidemment excessivement solide. Je dirais que c'est notre rôle à nous, les chroniqueurs, les chroniqueuses, les gens d'opinion, d'être justement la voix de cette majorité silencieuse qui se dit « Oh ben là, moi, c'est pas moi qui vais aller me battre, c'est pas moi qui vais aller au bâton pour défendre cette cause-là. » C'est là que notre rôle à nous devient extrêmement important parce que le passager clandestin qui embarque dans le train puis il a pas envie, lui, d'être le conducteur de la locomotive, ben nous sommes les conducteurs de la locomotive. C'est pour ça que c'est important que nous, on aille au bâton, même si des fois on se fait lancer des flèches, même si des fois on se fait attaquer sur les médias sociaux, même si des fois on fait rire de nous tous les dimanches à Tout le monde en parle, il faut continuer d'être la voix VOX de cette majorité silencieuse. Et je pense que là-dessus, aussi bien à Cube que Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA l'ajoute, on est la voix de ces gens-là et c'est important de le rester. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, écoute, je crois en tout cas qu'on essaye, je crois qu'on réussit pas si mal. Permettons-nous, juste pour une fois, de nous auto-congratuler
ben,
un
voilà.
peu, mais plus largement, Sophie. Et je serais intéressé, d'ailleurs, de savoir si c'est propre au Québec ou si ça se retrouve ailleurs. Probablement que c'est assez universel, mais quand même, quand tu regardes, en gros, l'ensemble de l'écosystème médiatique, il y a un fossé entre l'opinion ou les opinions dominantes de la clique médiatique et le sentiment populaire. Ça, c'est clair. Et je pense que, oui, nous, on a jusqu'à un certain point ce devoir de ramer dans le sens d'un sentiment majoritaire qui, par une bonne partie de l'industrie médiatique, est vu avec condescendance et mépris. Et ça, Sophie, ça me rappelle une vieille phrase de René Lévesque qui disait « Tous ces gens qui prétendent émanciper le peuple... » mais qui méprisent le peuple réel.
Oui, je me méfie des gens qui disent aimer le peuple, mais qui n'aiment rien de ce que le peuple aime,
exactement.
Quelque chose comme ça. Joseph,
exactement.
Toujours un plaisir, siempre un placer, et on se reparle. Attends, on est jeudi, toi et moi, on se reparle mardi prochain, passe une excellente fin de semaine, puis bon film, tu nous raconteras tout mardi prochain.
Merci, au revoir, bonne fin de semaine.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Il y a exactement un mois, je vous avais proposé sur les ondes de Cube Radio une entrevue avec Jean-François Gay, Québécois, qui est établi au Mexique. Et on se parlait des nouvelles mesures que le gouvernement mettait en place, la quarantaine à l'hôtel, etc., etc. Et on s'était promis à la fin de l'entrevue avec Jean-François qu'on se donnerait des nouvelles un mois plus tard pour voir comment la situation a évolué, oui. Alors hier, je reçois un petit message Facebook de Jean-François en disant « ça fait un mois, on est dû pour se parler ». Alors c'est ce qu'on fait en ce moment, on le rejoint par Skype à Tulum au Mexique. Jean-François Gay, bonjour.
Bonjour Sophie.
Jean-François, tu m'as envoyé un message et tu dis « si j'avais à faire une chronique, son titre serait « il n'y a pas de COVID ici ». Explication.
Oui, ben ça serait un titre un peu accrocheur pour créer des clics sur Facebook. C'est comme ça que ça marche maintenant. En fait, oui, il y en a, mais on le sent pas. On s'est parlé, je venais d'arriver à Tulum, donc j'avais pas pris le pouls de la ville encore. J'avais pas pris un peu, je m'étais pas mêlé à la faune locale et aux touristes. Mais après un mois, je peux en parler un peu plus. Et entre autres, la semaine dernière, je suis allé voir un groupe qui fait des covers en bon chinois. Je suis allé au bar. Il n'y avait pas de distanciation sociale. Il n'y avait pas de masque. La tequila et les coulaient à flot, la bière aussi. Et je me suis dit, il n'y a pas de COVID ici, on le sent pas. Il n'y a pas ces espèces de messages quotidiens, de bilans, de morts, de cas, le variant. Il y a une espèce de message de peur, de message de terreur qu'on ne vit pas. Et ici, les gens, ils vivent. Ils font leurs petites choses et puis on vient de passer de orange à jaune dans le Quintana Roo. Et il y a, je pense que chez les locaux aussi, un grand relâchement au niveau du port du couvre-bouche, le cubre-boca.
Ah, cubre-boca!
Oui, que je trouve beaucoup plus approprié que masque.
Oui, mais c'est parce qu'en même temps, ça porte à confusion, Jean-François, parce que le masque, il doit absolument couvrir le nez aussi. S'il couvre juste la bouche, c'est qu'il est mal porté. Donc, je trouve que à la rigueur, le couvre-visage est plus approprié que cubre-boca, hein, peut-être.
Oui, mais les Espagnols, ils disent cubre-boca. Oui. Et puis, quand on va à la plage, il n'y a pas de masque. Les touristes, oui, certains, d'autres, non. Par contre, quand je vais au centre-ville, quand je vais au château, quand je vais à l'épicerie, mon masque est toujours là. Évidemment, c'est les scènes hilarantes où tu sors, tu t'en vas et puis tu arrives. Puis, ah merde, mon masque. Alors, je retourne à l'auto, je vais chercher mon masque. Puis, tu as besoin de ton masque pour rentrer au restaurant, mais dès que tu rentres, tu l'enlèves. Il y a des situations un peu loufoques comme ça, mais on sent pas cette espèce d'atmosphère lourde de terreur due au virus, là.
Mais en même temps, Jean-François, quand je t'entends utiliser le mot terreur, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais en même temps, est-ce que le fait que justement il n'y ait pas ce climat de terreur qui règne au Mexique, est-ce que c'est pas de l'insouciance ou de l'inconscience? Parce qu'il y a quand même, c'est pas comme si le Mexique était sorti du bois non plus. Comment ça se passe, par exemple, la vaccination au Mexique? Est-ce que t'es vacciné, toi?
Non, je vais attendre, moi. Je vais attendre au moins un an. Je vais laisser les cobayes subir le vaccin. Et parlant de... j'ai pas de chiffres officiels pour au niveau du Mexique et je pense pas que les chiffres officiels du Mexique soient très, très, très non plus précis. Je pense que le gouvernement est pas du tout... on top, si on peut dire. Là. Je parle beaucoup anglais.
En contrôle de la situation.
Je suis en train de perdre mon français. C'est anglais, espagnol, je parle très peu français ici. Donc, ils ne sont pas très, très...
En contrôle de la situation.
En contrôle de la situation, exactement. Et puis, par contre, je peux te dire que dans mes connaissances, il y en a 4 près de moi qui ont eu le COVID, dont 2 qui n'ont pas trop aimé la chose et 2 qui ont dit « bon, ça s'est relativement bien passé ». Et c'est des personnes qui ont été en contact avec des touristes. Donc, passé par des touristes.
Donc, ce que tu nous confirmes, parce que toi, t'es plus qu'un touriste, hein, t'as ta propre maison, tu habites là-bas, vraiment, à Touloum. Donc, ce que tu nous confirmes, c'est qu'il continue à y avoir du tourisme. Parce que, quand on s'était parlé, toi et moi, il y a un mois, c'est que le gouvernement, donc, annonçait la fermeture des vols reliant le Canada avec le Mexique. Mais, évidemment, il y a bien d'autres pays que le Canada, puis il y a bien d'autres façons de se rendre au Mexique. Donc, tu me confirmes que, toi, à Touloum, il y a un nombre assez imposant, quand même, de touristes étrangers?
Oui, c'est plein. C'est plein, et ça devrait être plein jusqu'à avril.
Ben, c'est assez surprenant quand même. Alors, d'autant plus que s'il y a autant de touristes, que les mesures ne soient pas plus strictes justement pour empêcher la contamination des locaux.
Ben, ça, c'est le côté irresponsable que je trouve des touristes. Certains sont conscients. Ma maison était louée, je me suis pris une petite cabane sur le bord de la mer, et puis tranquille. J'essaie d'éviter les zones là, très, très jet-set et Touloum est rendu très Instagram. Et il y a beaucoup de vedettes et de personnes qui fréquentent des beach clubs trendy puis des hôtels vraiment là, à la mode. Je préfère me retrouver dans la jungle ou dans des endroits très, très rustiques. Pas d'air climatisé. Et puis, il y a certains touristes qui sont très, très sur les principes puis qui portent leur masque. Puis j'apprécie ça. D'autres un peu moins. C'est compliqué. Je voyais un couple, la femme le portait, l'homme le portait pas. L'autre jour, c'était l'homme qui le portait, la femme qui le portait pas. Ça donne rien. Donc, c'est très difficile, je pense, pour les êtres humains de juger de la situation. Le danger est très subjectif, je dirais.
Oui, mais en même temps, ce que tu racontes, c'est quand tu dis que Touloum, c'est très branché en ce moment, puis c'est très instagrammable. Tu me parles des beach clubs et tout ça, donc tu es en train de me dire que aujourd'hui, là, 4 mars 2021, les beach clubs sont ouverts à Touloum?
Ah, complètement. Tout fonctionne. L'industrie touristique fonctionne à plein régime en ce moment. Et il y a des endroits où, sur la plage, il y a quand même pas mal de monde. En même temps, la plage est immense, elle est très vaste. Il n'y a pas de danger là, d'arriver en contact avec les gens. Et de l'expérience de mes amis ou mes connaissances qui ont attrapé le COVID, c'était du contact très serré, là. Embrassé, très, très proche, là.
Bon, ben là, on peut aller au beach club, mais faut pas necker avec les gens.
Ben oui.
Ça se dit-tu encore, ça, necker? Necker?
Pardon?
Ça se dit-tu encore, necker? Je pense qu'on ne dit même plus
pas,
ça.
Non, je pense pas. Non. C'est vieux, ça. C'est quand j'étais ado.
Ben oui, mais moi aussi, mais on a peut-être le même âge, Jean-François. Moi, j'ai 55 ans, toi?
53. J'ai eu 53 au mois de février.
Bon, ben là, écoute, joyeux anniversaire en retard. Écoute,
j'ai fêté ça à Touloum.
OK. Mais ce que tu nous décris, c'est drôlement intéressant parce que, en effet, le titre de ta chronique pourrait, en effet, être « Il n'y a pas de COVID ici », parce que si les gens font le party sur la plage, si les gens, il y en a un qui porte le masque, l'autre pas, c'est un petit peu n'importe quoi. En même temps, toi, qui es Québécois, établi là-bas, quand tu regardes ce qui se passe au Québec, ça te donne pas vraiment envie de revenir à court terme, là?
Je parle à des gens autour de moi et il y en a qui sont comme résignés. Ma fille trouve ça dur. Mon ancienne copine trouve ça très, très, très dur. D'autres trouvent ça correct. Ils font avec. Ben, coudonc, c'est ça. Et puis quand je lis, par contre, quand je lis les commentaires en dessous des articles, et là je me dis des fois les gens vont pas bien là du tout au Québec. Là, quand un exemple, il y a une espèce de sur les snowbirds. Pourquoi on tape sur les retraités qui vivent en Floride? Je ne comprends pas. Ils ont vécu. Et là, c'est « Oh, je paie des taxes, moi, ici, pendant qu'eux paient des taxes là-bas. » Je pense qu'il y a une dimension émotionnelle qui dépasse largement le côté viral de la pandémie.
C'est-à-dire qu'en fait, peut-être parce que nous, on est ici à se geler le derrière, tu sais, hier ou avant-hier, il faisait moins 20, ressenti moins 40, ça nous écœure de savoir que vous êtes bien au chaud. D'ailleurs, en passant, il fait combien? C'est comment la température à Toulouse aujourd'hui?
Ben là, j'ai bien hâte. Ce matin, je travaillais un peu, donc je suis sur mon ordi, mais présentement, ben, je sais qu'il fait moins 8 à Montréal, mais là, il fait 27 ensoleillé et j'ai bien hâte d'aller à la plage.
Donc, toi, ta maison, tu la loues, hein? Les gens peuvent louer ta villa. Donc, le tourisme fonctionne bien. Donc, tu arrives à la louer. Il y a des clients pour ta villa, là.
Oui, tout à fait. Oui, là, j'ai dû me louer un appartement à Tulum et les prix sont assez élevés. C'est plus élevé qu'à Montréal.
Bon, ben écoute, Jean-François, on est bien content d'avoir pris de tes nouvelles, même si ça nous écœure un peu de savoir qu'il fait 27 degrés à Tulum puis que nous, on se les gèle ici en attendant. Mais c'était intéressant d'avoir cette espèce de petite carte postale de Tulum, de savoir que pendant que nous, on confine et qu'on est pogné avec nos zones rouges, que les gens au Beach Club de les Olivier Primo de Tulum reçoivent des clients à pleine poche. Ça fait tout un contraste. Jean-François, merci. Oui, vas-y, vite.
Ben, je veux juste te dire que j'essaie d'éviter ces beach clubs-là. J'essaie d'aller dans des zones plus calmes parce que j'aime pas ça, de un. Oui. Ça me tente pas. Je cours pas après le COVID. Je pense que j'ai plus peur, par contre, de la dengue, comme ils disent ici, que du COVID. Et j'apprécie énormément. Pour avoir vécu le confinement, pour avoir vécu le couvre-feu, la liberté que j'ai en ce moment, c'est savoureux. Ça n'a pas de prix.
Bon, ben, Una, tu prendras une corona à notre santé. Merci beaucoup, Jean-François Gay, un Québécois donc établi au Mexique. C'est comme ça, sur ces notes de soleil, que l'émission se termine. Merci à Joanie Henry à la mise en onde. Merci à William Boivin à la recherche. Et nos vemos mañana. Hasta luego!
Cube Radio.